Horizon latin.
Horizontes latinos.
Horizon latin.
Horizontes latinos.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Horizon latin, votre émission hebdomadaire pour explorer l'histoire, les sociétés et les identités du monde hispanophone à travers la musique. Aujourd'hui, je vous propose de pousser les portes de musées espagnols en musique, car le 18 mai, c'est la journée internationale des musées. Le musée, c'est un lieu que l'on connaît tous. Un lieu que l'on visite en vacances, lors d'un week-end dans une grande ville, ou parfois dans un cadre plus scolaire. Un lieu que l'on associe spontanément à la culture, au savoir, à la découverte, à la beauté ou à l'ennui. Mais derrière cette évidence, une question se pose. Que fait réellement le musée à l'art et à ceux qui le regardent? Est-ce un espace de contemplation où l'on prend le temps de voir? Un lieu de transmission où l'on apprend à comprendre les œuvres? Ou bien un espace de consommation culturelle où l'on accumule les objets sans vraiment les regarder? À travers trois chansons, je vous propose de mener l'enquête. Avant d'entrer dans les chansons, il faut rappeler que le musée, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est une construction relativement récente. Si l'on remonte à l'Antiquité, le museion désigne un lieu consacré aux muses, donc à la connaissance et à la création. Mais le musée moderne apparaît surtout à partir du XVIIIe siècle dans le contexte des Lumières, avec l'idée de rendre l'art accessible au public. Des institutions comme le musée du Louvre en France ou plus tard en 1819 en Espagne, le Museo del Prado à Madrid, participent de ce mouvement. Le musée devient alors un espace de démocratisation culturelle, mais montrer, c'est aussi sélectionner. Conserver, c'est aussi figer. Et exposer, c'est forcément mettre en scène. Je vous propose de commencer avec une chanson qui adopte un point de vue très simple, qui pourrait être le vôtre, celui du visiteur. La chanson El Museo, le musée, sortie en 2000 du groupe de pop espagnol Bainica Doble, raconte l'ennui profond d'une narratrice qui a enchaîné les musées à Madrid, jusqu'à saturation. On le comprend dès le premier vers, puisque la narratrice exprime d'emblée un refus très net « No quiero ir a otro museo »« Je ne veux pas aller dans un autre musée ». Ce rejet est frappant et frontal pour débuter une chanson. Il s'explique immédiatement par l'expérience décrite dans les paroles. Le musée n'est pas présenté comme un lieu de plaisir, mais comme une épreuve. Il faut attendre, faire la queue, rester debout pendant des heures. Elle dit « horas y más horas esperando en una cola », des heures et des heures à faire la queue. Puis « no puedo dar un paso más », je ne peux plus faire un pas de plus. Le corps est fatigué, saturé, et cette fatigue physique se double d'une saturation visuelle. Les œuvres s'enchaînent, les salles se ressemblent, les couloirs semblent interminables dans un dédale sans fin. On passe d'un tableau à l'autre sans véritablement s'arrêter. Car la narratrice enchaîne les musées madrilènes. La chanson en cite trois musées emblématiques de Madrid. Le Museo del Prado, l'équivalent du Louvre, et le Museo Reina Sofía, un musée d'art contemporain où est notamment exposé le Guernica de Picasso. Et enfin, le Palacio de Cristal, situé dans les jardins du Retiro, et qui est une des antennes du musée du Reina Sofía. Ce sont donc des institutions majeures, symboles de la richesse culturelle espagnole. Et pourtant, ici, elles apparaissent presque comme des étapes obligées, parce qu'il faut les avoir vues dans sa vie, sous peine d'être jugé par ses pairs. Comment ça? Tu n'as jamais visité le Prado? Quoi? Tu n'as jamais fait le Louvre? Et puis, au milieu de cette lassitude pesante de la narratrice, un moment attire l'attention. La narratrice dit « Y suspiro al contemplar un bodegón de Zurbarán. » Elle soupire en regardant une nature morte de Francisco de Zurbarán. Pour un Espagnol qui écoute la chanson, El Museo, aucune surprise, Zurbarán est l'un des grands peintres classiques connus, reconnus et étudiés à l'école. Mais pour vous, chers auditeurs, voici un petit éclairage. Zurbarán est un peintre majeur du siècle d'or espagnol, du XVIIe siècle. Contemporain de Velázquez, vous savez, celui qui a peint les Ménines. Il est connu pour ses tableaux d'une grande austérité, souvent religieux, mais aussi pour ses natures mortes d'une précision que l'on pourrait qualifier de méditative. Des objets simples, un verre d'eau, un fruit, un tissu, peints avec une lumière très forte, à la dimension mystique. Chez lui, tout est silence, dépouillement, intériorité. Ses tableaux ne sont ni spectaculaires, ni exubérants, mais c'est justement ce qui peut toucher profondément le spectateur, à condition de s'arrêter pour regarder ses œuvres avec attention. Et c'est là que la narratrice semble sortir de son ennui. Elle lâche un suspiro, elle soupire. Mais est-ce un énième soupir d'ennui après des heures de visite, ou au contraire un moment de suspension, une respiration admirative face à une œuvre qui enfin impose un calme méditatif face à la beauté d'un tableau de Zurbarán? C'est toute la richesse de ce vers. Même dans la saturation, l'émotion reste possible. Mais elle devient fragile, accidentelle et fugace. Le refrain de la chanson confirme ce ras-le-bol. Face à des couloirs froids et silencieux qui accumulent des œuvres figées, la narratrice dit qu'elle préfère quitter les musées pour aller dans un maison, une auberge, boire un verre de vin, manger du jambon, une ration de gambas, écouter les voix des gens assis au bar. La vie, le bruit, la chaleur humaine reprennent le dessus. Et cette envie d'aller dans un bar n'a rien de surprenant pour une Espagnole. Cela rappelle que le bar, en Espagne, est considéré tout autant comme un art que la peinture, un art de vivre, qui a même été candidat en 2020 auprès de l'UNESCO pour être labellisé patrimoine de l'humanité. Par conséquent, si vous voulez découvrir la culture espagnole, n'hésitez pas à aller vous détendre au bar après avoir visité un musée. Voici El Museo du groupe espagnol Benicadole. Esperando en una cola, el Museo del Prado, el Reina Sofía, mil galerías, el Palacio de Cristal. Ya me he cansado de mirar, no puedo dar un paso más. Me quiero ir a un mesón, pedir un quinto y una de jamón. Oír las voces en la barra, pedir si acaso una de gambas. Un interminable pasillo me lleva por fin al último. Si acaso. venez d'entendre la chanson « El Museo », le musée, du groupe Bainica Lovely. Ce que montre cette chanson, c'est que le musée peut produire l'effet inverse de celui qu'il recherche. Au lieu de rapprocher de l'art du spectateur, il peut l'en éloigner. Non pas parce que les œuvres ne sont pas intéressantes, mais parce que la manière de les voir empêche parfois de les ressentir. Peut-être faut-il les goûter à petite dose, s'en délecter, plutôt que de s'en goinfrer jusqu'à l'indigestion. Ce n'est pourtant pas ce que nous invite à faire le tourisme de masse qui domine le marché culturel espagnol. Mais si le problème vient du regard, qu'en est-il de l'artiste lui-même? Que devient l'œuvre et celui qui l'a créée une fois qu'elle entre dans l'histoire? Pour réfléchir à cette question, nous allons partir des paroles d'une chanson du célèbre groupe de pop-rock espagnol Mecano. Cette chanson, c'est « Un genio Salvador Dalí » consacrée à l'illustre peintre espagnol surréaliste Salvador Dalí. Ma langue n'a pas fourché en donnant le titre de la chanson, c'est bien « Un genio » et non pas « Eugenio ». Mecano produit ici un jeu de mots entre le prénom « Eugenio » et la sonorité « es un genio », c'est un génie. Dalí, c'est une figure incontournable de l'art du XXe siècle. Il est né en Catalogne en 1904 et c'est l'un des grands représentants du surréalisme, ce mouvement artistique qui cherche à explorer l'inconscient, les rêves, les images irrationnelles. On lui doit des tableaux devenus iconiques, comme ces montres molles qui semblent fondre au soleil, des images à la fois étranges, dérangeantes et immédiatement reconnaissables. Mais Dalí, ce n'est pas seulement une œuvre. C'est un personnage à part entière, un artiste qui a construit sa propre image, avec sa célèbre moustache à guidon, ses provocations, ses mises en scène. Chez lui, la frontière entre l'homme et l'œuvre est toujours floue. Et c'est ce point-là qui rend la chanson « Et un genio Salvador Dalí » intéressante. Elle ne parle pas seulement du peintre, mais de ce moment où le personnage, le génie, l'image publique, commence à se fissurer face au temps qui passe. Car la chanson sort en 1988, soit à peine un an avant le décès du peintre, en 1989. Dalí est très âgé et malade. Les premiers vers de la chanson témoignent de la finitude corporelle de l'homme. Dalí se desdibuja, Dalí se decolora, Dalí se défait. Il perd ses contours, il s'efface, se décolore, à cause de « esta lavadora que no distingue que tejidos », cette machine qui ne distingue pas les tissus. Cette machine, ce n'est pas une institution culturelle ou le marché de l'art. C'est le temps, la vieillesse, la maladie qui descuenta latidos, qui décompte les battements de cœur. Une force qui ne distingue pas, qui ne fait pas de différence entre le génie et l'homme. Et dans la chanson, l'artiste s'en rend compte, est effrayé et se lamente du fait que « los genios no deben morir », les génies ne doivent pas mourir. Dalí est présenté comme un être à part, un personnage identifiable à sa moustache rocococo, oui, avec un « co » en plus, qui marque bien le caractère remarquable et excentrique de l'artiste. Une excentricité qui place la tension entre génie artistique et folie. La chanson pose explicitement la question « ¿Dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco ?» Où s'arrête le génie? Où commence le fou? Car dans sa tête se concentre la beauté, comme dans une olla express, une cocotte minute. Il crée vite, il crée beau, mais tout peut potentiellement exploser. Cette frontière floue est au cœur de la figure de Dalí. Artiste surréaliste, provocateur, personnage public construit, il incarne une forme d'excès permanent. Mais face au temps, face à la dégradation du corps, cette figure se fissure. Los genios no deben morir. Les génies ne devraient pas mourir. C'est ici une protestation, presque une révolte, comme si la disparition du génie était injuste, insupportable. Comme si quelque chose d'exceptionnel devait échapper à la condition humaine. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Le génie est mortel. Alors, Mécano rend hommage avec cette chanson à l'artiste et en retrace l'œuvre de façon poétique. Realista y surrealista, con luz de impresionista y tracio impresionante, delirio colorista, colirio y oculista, de ojos delirantes, en tu paleta mezclas místicos acetas con bayonetas y con tetas, y en tu cerebro galadios y las pesetas, buen catalán anacoreta. Je traduis réaliste et surréaliste avec la lumière d'un impressionniste et un trait impressionnant. Délire coloriste, colire et ophtalmologue, dieu délirant, sur ta palette tu mêles ascètes mystiques à des baïonnettes et à des saints. Et dans ton cerveau trône dieu et les pesetas, bon catalan anachorète. Arrêtons-nous sur ce passage très dense de la chanson. Realista y surrealista. Dali est les deux à la fois. Ces tableaux sont d'une précision technique impressionnante, presque photographique. On voit chaque détail, chaque ombre, chaque texture. Et en même temps, ce qu'ils représentent est totalement irréel. Des montres qui fondent, des corps déformés, des paysages désertiques peuplés d'objets impossibles. Et c'est ce contraste qui crée le trouble. Con luz de impresionista. Cette référence à l'impressionnisme est subtile, mais elle est juste. Dali travaille énormément la lumière, notamment dans ses paysages de Cadaqués, sa région natale. Cette lumière méditerranéenne, très blanche, très nette, donne à ses tableaux une apparence réaliste qui rend encore plus dérangeant ce qu'il y insère. Puis viennent ces vers. Delirio colorista, colirio y oculista, de ojos delirantes. Ici, tout tourne autour du regard, des yeux. Dali peint pour l'œil, mais aussi contre l'œil. Il joue avec la perception, avec les illusions, avec ce que l'on croit voir. Certaines de ses œuvres sont construites comme des images doubles. Selon l'angle ou la distance, on ne voit pas la même chose. Et l'œil est donc constamment trompé. En tu paleta mezclas místicos acetas con bayonetas y con tetas. Cette accumulation peut sembler ici provocatrice, et elle l'est, connaissant le personnage de Salvador Dali. Mais elle dit quelque chose de très profond sur lui. Dans ses œuvres, on trouve à la fois des références religieuses, très fortes, mystiques, comme dans ses Christ en lévitation, et des éléments de violence, de guerre, mais aussi de désir et de sexualité. Tout coexiste, le sacré et le charnel, la foi et la pulsion. Et enfin, en tu cerebro, gala Dios y las pesetas. Là encore, tout est résumé. Il y a gala, sa muse, omniprésente dans son œuvre. Il y a Dieu, car Dali revient à une forme de mysticisme dans la seconde partie de sa vie. Et puis, il y a l'argent, les pesetas. Car Dali est un artiste qui a pleinement assumé la commercialisation de son image, au point d'être parfois critiqué pour cela. D'ailleurs, il jouera sur son nom en mélangeant les lettres pour donner le pseudonyme provocateur Avida Dollars, avide de dollars, anagramme inventé par André Breton, le maître du surréalisme. Dali ne s'est jamais caché de son intérêt pour l'argent. La chanson se termine par Buen Catalán Anacoreta, un ermite, mais un ermite très particulier, car Dali, loin de se retirer du monde, n'a cessé de se mettre en scène. C'est un anachorète paradoxal, solitaire dans son imaginaire, mais omniprésent dans l'espace public. Écoutons maintenant cet hommage à Salvador Dali par le groupe Mécano.
Dali se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos. Se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta. Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu Dalí. nada. En tu cabeza se comprime la belleza, como si fuese una olla express. Y es el vapor que va saliendo por la pesa, mágica luz en cada que es. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel. Y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. Si te reencarnas, colorista, colirio y oculista, de ojos delirantes. En tu paleta mezclas místicos aztecas, con bayonetas y con telas. Y en tu cerebro gala Dios y las pesetas.
Queremos genios en vida, queremos que estés aquí, Eugenio Salvador Dalí. Nous voulons des génies en vie, nous voulons que tu restes là, Eugenio Salvador Dalí. Voici comment se conclut la chanson Eugenio Salvador Dalí du groupe Mecano que vous venez d'écouter. Un hommage qui appelle à la postérité de l'artiste catalan. Et Salvador Dalí voulait, lui aussi, rester en vie, rester là, sur terre. Et c'est précisément là que le musée entre en jeu. À Figueras, en Catalogne, Dalí a lui-même conçu le Théâtre-Musée Dalí, un lieu à son image, spectaculaire, théâtral, déroutant, hors du commun, ludique, autrement dit, vivant. On est loin de l'atmosphère du musée du Prado, à Figueras. On peut y voir une tentative de prolonger sa présence, de transformer son œuvre en expérience, de survivre, en quelque sorte, à travers un espace que l'on visite. Le musée apparaît alors comme une réponse à la disparition. Il conserve, il transmet, il rend visible, mais il transforme aussi. Le génie vivant devient une figure exposée, une œuvre parmi d'autres, inscrite dans un parcours. Et cette idée va nous mener encore plus loin. Car si un artiste peut, comme Dalí, organiser sa propre mise en scène après sa mort, que se passe-t-il lorsque ce geste se généralise parmi les artistes ? Avec la chanson d'Albert Pla, En la Casa Museo de Alberto, dans la maison musée d'Alberto, nous allons plus loin dans cette idée de l'artiste qui construit son propre musée comme Salvador Dalí. Depuis le début, nous avons vu le musée comme un lieu de conservation, parfois écrasant, parfois sacralisant. Mais il existe une autre forme de musée, beaucoup plus intime, la Casa Museo, la maison musée. Ces maisons-musées sont nombreuses. On conserve la maison d'un écrivain, d'un peintre, d'un musicien. On y garde les objets du quotidien, les meubles, les carnets, les vêtements. Et l'idée est simple, rendre l'artiste plus proche, plus humain, faire entrer le public dans son intimité. Et c'est une autre façon de transmettre la culture, de désacraliser l'artiste et de rendre accessible la culture. Mais que se passe-t-il quand l'artiste anticipe lui-même cette transformation, quand il imagine de son vivant ce que deviendra sa maison une fois qu'il sera mort? C'est exactement ce que propose la chanson « En la Casa Museo de Alberto », écrite par Enrique Montefusco et incarnée par la figure d'Albert Pla. Albert Pla, c'est un artiste à part dans le paysage espagnol. Il est né dans une ville industrielle de Catalogne. Il a commencé comme ouvrier textile avant de monter sur scène. Il construit depuis les années 80 une œuvre provocatrice, ironique, souvent dérangeante, où il mêle humour noir, critique sociale et mise en scène de lui-même. Et ici, justement, il devient son propre objet de musée. Il pousse le bouchon jusqu'à parler de lui à la troisième personne dans la maison musée d'Albert. Et tout est au futur. Habrá un tocadiscos, pondremos un ajedrez, colgaremos un cartel. Dans sa maison musée d'Albert, il y aura un tourne-disque, on y mettra un échiquier, nous accrocherons un poster du Barça et une affiche disant « Premier étage, escalier B ». Ce futur verbal est essentiel. Il ne décrit pas un lieu qui existe. Il imagine un musée à venir, un musée de lui-même, une fois qu'il sera décédé. Mais au lieu d'y trouver des œuvres exceptionnelles, que trouve-t-on ? Un tubo de pasta Colgate, un tube de dentifrice Colgate. Una tabla de chocolate, une tablette de chocolat. Corbatas, des cravates. Dos ceniceros, deux cendriers. Perchas de cerchas, des cintres usés. La chanson accumule les descriptions presque jusqu'à l'absurde. Je cite. De la musique dans des mégaphones, des gadgets mécaniques, des câbles téléphoniques, des antennes paraboliques, des sons radiophoniques, des programmes paramétriques, beaucoup d'objets en plastique, des objets farfelus, des bric-à-brac très sympathiques. Cette accumulation produit un effet de saturation comparable à celui du premier morceau que nous avons écouté, mais avec une différence majeure. Ici, ce n'est pas l'art qui est trop présent, c'est le quotidien qui est élevé au rang d'œuvre. Ces objets sont exposés. Et parce qu'ils sont exposés, ils deviennent dignes d'intérêt. Et c'est là que la chanson devient ironique, car elle reproduit exactement les codes de la maison-musée. Mais en les vidant de leur aura. On archive tout le passé d'Albert. Tenemos archivado el pasado de Alberto. Mais que reste-t-il ? Une accumulation d'objets sans valeur apparente. Et pourtant, es una casa mágica. C'est une maison magique, con belleza tan mayúscula que todos los periódicos quieren ver en sus páginas, d'une beauté exceptionnelle que tous les magazines veulent montrer. Le regard extérieur, donc, ici, transforme tout. Ce qui est banal devient exceptionnel. Ce qui est insignifiant devient digne d'être exposé. Et surtout, le public arrive. Turistas y fotógrafos harán cola para entrar. Les touristes et les photographes feront la queue pour rentrer dans la maison-musée d'Albert. La scène est familière. Comme dans El Museo, notre première chanson, il y a la file d'attente. L'attente, le regard consommateur. Mais ici, le renforcement est total. Les visiteurs ne viennent pas voir des chefs-d'œuvre. Ils viennent ver lo que no tienen. Ils viennent voir ce qu'ils ne possèdent pas. Para ser alguien famoso, célèbre y excepcional. Voir ce qu'il leur manque pour être quelqu'un de célèbre et d'exceptionnel. Au vu des objets exposés, il ne leur manque pas grand-chose. La célébrité, ça y est donc ailleurs que dans les possessions, que dans le matériel. Peut-être dans le talent ou dans le génie. Dans cette chanson, le musée n'est plus seulement un lieu de conservation. Il devient un miroir des désirs contemporains. Un lieu où l'on projette une aspiration à exister, à être reconnu. Et au fond, ce que fait Albert Pla, ou plutôt ce que met en scène Enric Montefusco, est extrêmement lucide. Il montre que le musée ne fabrique pas seulement de la mémoire, il fabrique aussi de la valeur, de la célébrité, de l'exception. Et il suffit parfois de presque rien, quelques objets, un nom, une histoire, pour transformer une vie ordinaire en patrimoine. Vous l'avez compris, le musée n'est pas simplement un lieu où l'on conserve des œuvres. C'est un espace qui transforme. Il transforme notre regard, parfois jusqu'à la saturation. Il transforme les artistes en figures exposées, séparées de leur vie. Et aujourd'hui, il peut même transformer nos existences en objets à montrer. Entre fatigue du regard, postérité du génie disparu et mise en scène du quotidien, une question demeure. Lorsque nous entrons dans un musée, regardons-nous encore vraiment ? Ou apprenons-nous simplement à voir ce que l'on attend de nous ? Ou bien nous rendons-nous dans un musée simplement pour y aller, en bon consommateur, dire « je l'ai fait » et cocher une case ? Si vous allez bientôt au musée, interrogez-vous sur votre manière de visiter. Et peut-être qu'au fond, le musée ne nous parle pas seulement de l'art, mais de notre manière de regarder le monde. Je vous propose de terminer cette émission avec la visite de la future maison-musée d'Albert Pla. Voici La Casa Museo de Alberto, écrite par Enric Montefusco et chantée par Albert Pla. Abre un tocadiscos en la Casa Museo de Alberto. Pondremos un ajedrez, un póster de Barça y unas corbatas. Colgaremos un cartel de quinto, primera escalera B. Prepárense. Música en megáforos, artilugios mecánicos y cables telefónicos.
Llegarán curiosos. de todos los rincones subirán por la escalera. Y harán cola para mí. Y esperarán su turno para ver lo que no tiene, para ver lo que le falta, para ser alguien famoso, célebre y excepcional. Música en verano.